Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous retrouver pour une émission spéciale avant Pessah, la veille de Pessah, avec nous, le Dayan de la ville de Strasbourg. Bonjour, ravi
Bonjour.
d'être là.
Bonjour.
Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un Dayan, est-ce qu'on peut, en deux mots, expliquer quel est votre rôle?
Dayan, ça veut dire juge en hébreu. Il ne s'agit pas de juger forcément les personnes, bien que ça existe aussi, de pratiquer la justice lorsqu'il y a un litige entre plusieurs personnes. Mais il s'agit surtout de juger ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est cachère, ce qui n'est pas cachère, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas, par rapport à toute la vie communautaire, et aussi par rapport à tout particulier qui voudrait avoir une réponse pour savoir est-ce que telle chose est licite ou est-ce qu'elle ne l'est pas religieusement.
Alors,
Donc ça fait aussi
oui,
partie.
alors, excusez-moi, on est la veille de Pessard, c'est demain soir Pessard, ce soir, c'est du 4 à dans votre expérience. Quelles sont les choses qu'on vous demande qui sont en dernière minute ou qu'on oublie des fois? On est tellement dans les grands travaux que des fois on oublie les petites choses. Dans votre expérience, qu'est-ce qu'il faut absolument vérifier qu'on ne pense pas obligatoirement tout de suite?
Dans la du Khatramet, vérification du Khatramet, bien sûr, il y a tout l'appartement. Mais parfois, on oublie la voiture, le bureau où on travaille, ce qu'on a.
Même si on ne va pas travailler.
Même si on ne va pas travailler, s'il y a là-bas du Khatramet qui nous appartient,
En le vend, en tout cas.
ou bien vendre le Khatramet qui se trouve à cet endroit-là, ou sinon, aller vérifier. Des fois, le casier à la synagogue. Dans la synagogue, on a un casier. Parfois, des fois, on met des choses. À la Simchat Torah, on va mettre des bonbons, etc. Et donc, il va pouvoir se trouver du Hametz qui est à nous. Et donc, tous les endroits où, les endroits de vie, les endroits où on a l'habitude d'être, où on a l'habitude de déposer des choses et qui nous appartiennent, on doit faire attention à ce qu'il n'y reste aucun Hametz.
Alors, il y a deux endroits où j'en discutais tout à l'heure avec quelqu'un, il me disait, il y a deux endroits où je fais attention, c'est le cartable des enfants
Bien
et
sûr.
la poche des blousons ou des pantalons. C'est
Toutes les
quelque chose.
poches. On doit vérifier les poches. Dans les poches, on laisse souvent. Les enfants, ils laissent des bonbons, ils laissent des gâteaux, ils laissent des choses comme ça. Et on doit donc vérifier tout cela. De même, comme vous dites, dans les cartables des enfants, c'est aussi
Les
très
bouteilles.
important. Mais bon, et souvent, la maîtresse de maison, elle a préparé déjà depuis longtemps tout cela. Elle a déjà. Vérifier un peu tout cela. Mais de toute façon, au moment de l'abdicat Hametz, on repasse en revue, même si on ne va pas regarder chaque chose, parce que, bien sûr, la maîtresse de maison a déjà tout vu. Mais on repasse quand même en revue, rapidement en tout cas, chaque endroit, pour être sûr qu'on n'a rien oublié et qu'on a tout vérifié.
Alors, en général, il y a une question que je me pose. J'ai par exemple oublié un morceau de pain et on est déjà jeudi matin. Qu'est-ce que c'est? J'arrête le Pessard et je mange du pain ou il y a une autre solution.
Si on trouve du pain pendant Yom Tov, donc si on le trouve avant, on va dire, si on le trouve avant la fête, mercredi après-midi, on doit le jeter à l'extérieur, dans une poubelle, etc. En tout cas, l'éliminer. Si on le trouve pendant Yom Tov, ce pain, il est mouktsé. On ne peut pas y toucher.
Ah, les gens peuvent le déplacer.
Yom Tov ou Shabbat, il est mouktsé. Et donc, on doit prendre un récipient et le poser par-dessus pour ne pas que quelqu'un
Le
en vienne à y toucher ou à le manger, etc. Et donc, on le couvre tout simplement. Et après la fête, après Yom Tov, donc quand ce sera Chol HaMoed,
samedi soir.
à ce moment-là, oui, cette année, samedi soir, puisqu'il y a 2 jours du Yom Tov suivi du Shabbat, donc après Shabbat, eh bien, on devra l'éliminer en le jetant dans une poubelle à l'extérieur, dans la rue, ou en le faisant passer par la cuvette des toilettes, etc. Donc, on devra l'éliminer, mais on ne peut pas y toucher pendant Yom Tov.
Deuxième question qui se pose souvent.
Si on le trouve, bien sûr, pendant la Moed, alors évidemment, on va l'éliminer de suite.
Il y a une autre question qui se pose. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, habitent dans des appartements avec des cours qui sont privatifs. Ils ne peuvent pas brûler comme ça le Hametz quand ils veulent avec du feu et de la colle brûlée. Il y a une solution.
Alors, l'obligation, c'est d'éliminer le Hametz. Il n'y a pas une obligation de brûler. L'obligation, c'est de l'éliminer. On peut l'éliminer par toutes les formes que j'ai expliquées. Mmh. Il n'y a pas d'obligation de brûler. C'est un minhag, c'est un hidour, parce qu'il y a un avis dans le Talmud, Rabbi Yehuda, qui disait que l'élimination du Hametz se fait uniquement en le brûlant. Mais ce n'est pas ainsi que la halakha a été tranchée. La halakha a été tranchée qu'on peut l'éliminer de toute manière que ce
soit. Donc le brûler, c'est un jour.
Et donc le brûler, c'est simplement pour le faire le nec plus ultra, on va dire en français, pour faire mieux. Une personne qui a la possibilité d'avoir un endroit, une cour très large où il est sûr qu'il n'y aura pas de problème, qu'il n'y a pas de voisinage et qu'il n'y a pas de souci, à ce moment-là, bien sûr que c'est bien de faire cette mitzvah, de le brûler. Mais sinon, s'il n'y a pas de possibilité, eh bien, ce n'est pas grave du tout. On l'élimine d'une autre manière et c'est tout à fait licite.
La configuration de cette année est un peu spéciale, puisqu'on va commencer mercredi, jeudi, on n'enchaîne pas Shabbat. Hey, excusez-moi, Shabbat, quelle différence entre Yom Tov et Shabbat?
Alors, cette année, évidemment, il y a une grande différence. Il y a une différence entre Yom Tov et Shabbat, bien sûr, puisque Yom Tov, on a le droit de cuisiner pour la fête. Et Shabbat, on n'a pas le droit.
On peut porter aussi, je crois.
Yom Tov, on peut porter. Shabbat, on ne peut pas porter. Bon, dans un endroit où il n'y a pas de Hérouv, je parle. Dans un endroit où il y a un Hérouv, on peut porter également le Shabbat. Mais dans un endroit où il n'y a pas d'Hérouv, on ne peut pas porter le Shabbat. On peut porter Yom Tov, ce qui est nécessaire. Et de même, on peut cuire ce qui est nécessaire pour la fête. Cette année, on peut faire attention.
Excusez-moi, quand vous dites cuire, ça veut dire quoi? On ne peut pas allumer le feu?
Pas allumer le feu, cuire. Allumer le feu, on ne peut l'allumer qu'à partir d'un feu existant. Ça veut dire qu'on peut prendre une bougie de Yom Tov qui a été allumée avant la fête et avec ça, j'allume mon gaz.
D'accord.
Donc ça, on peut allumer à partir d'un feu existant. Mais on ne peut pas allumer une plaque électrique.
Ouais.
On ne peut pas allumer avec des allumettes. Ça, on n'a pas le droit de créer un feu. On a juste le droit d'utiliser un feu existant pour allumer un autre feu.
En général, c'est quoi? On met une plaque pour Yom Tov aussi?
Alors, les gens qui ont préparé déjà avant, souvent les femmes, elles ont préparé déjà avant Yom Tov, elles ont déjà tout préparé. Mmh. Elles n'ont pas envie de faire la cuisine pendant Yom Tov. Donc, elles ont déjà tout préparé avant. Il suffit de le mettre sur le gaz ou sur la plaque de Shabbat pendant Yom Tov. Par contre, si elle n'a pas préparé, il y a aussi des femmes qui cuisinent pendant Yom Tov, elles ont un gaz qu'elles ont laissé allumer depuis la veille, et avec ce gaz-là, elles cuisent ce qui est nécessaire pour la fête. Et ça, c'est permis pour la fête. Par contre, il faut faire très attention cette année, mercredi, de faire Eruv Tavshilin. Eruv Tavshilin, c'est lorsque Yom Tov tombe avant Shabbat, comme cette année, puisqu'on a deux jours de Yom Tov suivis immédiatement du Shabbat, on doit commencer à préparer pour Shabbat déjà avant Yom Tov. On doit préparer, alors on prépare en général un œuf et une matzah pour le Shabbat déjà avant Yom Tov. Il y a différentes raisons qui ont été données. Une des raisons, c'est parce que les gens, ils pensent au Yom Tov, ils oublient qu'il y a Shabbat après. Ils vont tout préparer pour Yom Tov et puis après va arriver Shabbat et il n'y aura rien. Et donc, un rappel pour se souvenir qu'il y a encore Shabbat derrière, n'oublie pas qu'il faut laisser aussi pour Shabbat. Et c'est pourquoi on prépare ce Eruv Tavshilin avant Yom Tov. On doit dire la bracha et on doit dire la formule consacrée du Eruv Tavshilin avant Yom Tov, donc mercredi.
Pour concernant Eruv Tavshilin, si j'ai envie de le faire à 2h de l'après-midi,
oui,
c'est possible.
Toute la journée de mercredi.
Ah, il n'y a pas un horaire
particulier. Le matin ou l'après-midi. Toute la journée de mercredi, on peut faire Eruv Tavshilin, donc la veille de Yom Tov, pour pouvoir. Et ça, cette œuf-là, cette matzah qu'on a préparée pour Yom Tafshinin, il faut la garder jusqu'à Shabbat. On la mangera pendant Shabbat.
Ah, on la mange quand même.
On la mange. Si on ne l'a pas mangée, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, on ne doit pas la manger avant Shabbat. Il faut la laisser pour Shabbat.
Cette année, c'est mercredi après-midi.
Cette année, on le fait mercredi, donc dans la journée, matin ou après-midi. Il faut le faire.
Je posais la question aux différents rabbinim qu'on a eus avant vous. Est-ce qu'il y a une différence particulière? Je sais que vous, vous faites rite polonais quand vous allez prier. Il y a une différence particulière entre les Sfarades et les Ashkenazes dans Pessah, où c'est sensiblement la même chose?
De toute façon, la prière, c'est la même. Il n'y a pas sensiblement de grande... Il y a une fois peut-être un psaume ici, un psaume là, en plus, en moins. Mais en vérité, c'est les mêmes prières. Le Shmoneh Esrei, l'Amida, c'est la même. La Tfila, c'est la même. La Kriyata Torah, lecture de la Torah, c'est exactement la même. Donc, en vérité, dans les grandes lignes, c'est exactement pareil. Il y a peut-être une fois ici un verset en plus, ici un psaume en plus ou un psaume en moins, ou un mot en plus ou un mot en moins. Mais ça, c'est juste des détails. Mais dans les grandes lignes, c'est exactement la même chose.
J'ai acheté un appareil électroménager pour Pessah. Je suis obligé de le tremper, de le faire pour Pessah, ou je peux l'utiliser directement?
Alors, si on a acheté un appareil, il faut le tremper au mikvé.
De toute ça, façon, c'est obligatoire.
Toute vaisselle dans laquelle on met des aliments, en règle générale, après on rentre dans les détails, mais lorsque c'est soit en verre, soit en métal, ça doit être trempé au mikvé. Enfin, ça n'a rien à voir avec la cachérisation.
Alors,
cachérisation, c'est pour la vaisselle de l'année qu'on voudrait utiliser pendant Pessah.
Il y a pas de
Alors, on doit la cachériser à l'eau bouillante, à gala, ou bien en faisant le liboun avec un feu, avec un chalumeau. Ça, c'est pour cachériser.
Il n'y a pas de cachérisation spéciale pour Pessah quand on achète un nouvel élément.
Non. S'il est neuf,
ouais,
donc il n'a jamais été utilisé en Hametz, à moins qu'on l'achète d'occasion.
Ouais,
mais si on l'achète neuf, eh bien, il n'a jamais été utilisé en Hametz, il n'y a rien à cachériser, il faut juste le tremper au mikvé.
Alors, je sais que...
Avec bracha.
Évidemment, on a eu plusieurs interviews ensemble et vous disiez souvent que vous poussez les gens à avoir une double vaisselle. C'est beaucoup plus simple. Vous tenez votre avis?
Tout à fait, je reste toujours de cet avis-là, c'est très important. Les gens, ils viennent avec énormément de vaisselle. D'abord, ça fait un travail énorme. Chacun vient avec sa vaisselle. Il y a énormément de vaisselle. Pour les gens qui travaillent, qui font la cachérisation, c'est énorme. Et ça devient de plus en plus difficile. Deuxièmement, la cachérisation, il y a beaucoup de règles. Il suffit qu'on n'a pas bien fait telle ou telle chose pour que la cachérisation ne soit pas bien faite. Et donc, de toute façon, c'est beaucoup préférable d'avoir une vaisselle de Pessah. On l'achète une fois. Bon, ça ne coûte pas. Aujourd'hui, vous allez à Ikea, vous allez ailleurs, sans faire de publicité. Vous allez n'importe où, vous achetez une vaisselle, ça ne coûte pas cher du tout. Les casseroles, on n'a pas besoin d'autant de casseroles que pour l'année. On n'a qu'une semaine de Pessah. C'est pas non plus... Donc, on n'a pas besoin d'avoir tout la vaisselle qu'on a pendant l'année. Il suffit d'avoir une vaisselle qu'on a besoin pour Pessah. Et on n'a pas besoin d'aller à chaque fois traîner, trimballer la vaisselle à la communauté, et faire la gala, et le ramener à la maison, et avec tous les trucs, et faire la queue, et faire tout ça. Pourquoi tout ça? Il y a tellement de travail déjà pour Pessah. Si on peut un petit peu alléger le travail de la maîtresse de maison, et qu'on peut faire en sorte qu'il y a déjà une vaisselle qui est prête pour Pessah, il suffit de la sortir, on la sort de l'armoire, on la met dans la cuisine, et c'est terminé.
Il faut le vendre.
Pas
le pouvoir. On va oublier le pouvoir de Hametz. De vendre le Hametz.
Alors, vendre le Hametz, oui. Les Hachamim ont autorisé de vendre le Hametz. Donc, on peut l'éliminer soit physiquement, et on peut l'éliminer aussi en le vendant à un non-juif. Il faut faire attention parce que la vente, elle ne peut se faire qu'avant le temps d'interdiction du Hametz. si quelqu'un, c'est-à-dire que mercredi après-midi, on peut déjà plus faire la vente.
Enfin, c'est vous qui faites la vente, parce que vous.
C'est moi qui fais la vente.
Ah, comment ça se passe? Vous avez un contrat avec un non-juif, vous lui faites vendre.
Je fais un contrat avec un non-juif qui paye une avance.
Ah, quand même.
Avant Pessah Purim, puisque c'est une vente, c'est une vraie vente. C'est un vrai acte de vente. Il doit payer une avance. Alors évidemment, il ne paye pas tout le tarif. Il paye une avance. Et on fait différentes manières de faire acquisition. Mais entre autres, il y a une signature d'un contrat. Et il y a le paiement des avances. Et ensuite, on lui dit, voilà, ça c'est donc le reste, ce sera payé après Pessah, s'il veut le garder. S'il ne veut pas le garder, il n'a pas besoin de payer le reste. À ce moment-là, le rabbin lui rachète le Hametz. En règle générale, il ne veut pas garder tout ça chez lui. Et donc, le rabbin lui rachète le Hametz.
Vous demandez à quelqu'un de super confiance, alors, en gros.
Oui, je le vends à une personne à qui je vends chaque année. Et elle sait très bien.
Il n'y a jamais eu de problème.
Il n'y aura pas de problème. Et la personne sait très bien la raison pour laquelle on fait cette vente. Mais en théorie, en vérité, s'il voulait garder le Hametz, il pourrait, mais à condition de payer. Il faudrait quand même qu'il paye tout ce Hametz.
D'accord.
Donc, je ne sais pas si ça lui vaut la peine de toute façon.
Alors, il y a aussi une question qui se pose souvent, c'est concernant des produits qu'on pourrait acheter dans le commerce. Avant Pessah, bien fermé, hermétiquement, je vais donner un exemple, ça peut être le sucre, le café, ça peut être du sel qu'on achète avec la marque préconisée, d'autres produits sûrement comme ça. C'est permis. Mais vous, vous dites quoi? Vous dites vous pouvez ou...
Alors, tous les produits qui sont sur les listes de Pessah, en faisant bien attention à la marque, aux produits...
C'est la bonne marque principale, Stenfeld,
c'est la bonne marque et que c'est le produit qui est sur une liste, sont autorisés, sont cachés. Maintenant, si on veut faire mieux, on achète avec un tampon de Pessah. Maintenant, il y a des produits...
Bah, c'est plus cher.
Comment?
C'est plus cher.
C'est toujours un petit peu plus cher. Évidemment. Mais en tout cas, ce qui est sur les listes, c'est cachère, il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'il y a beaucoup de produits qui ne sont pas sur une liste, parce que ce sont des produits qui souvent contiennent du Hametz, etc. Mmh. Et donc, il faut acheter une production spéciale qui ne contient pas du Hametz. Donc, pour ça, il y a des épiceries cachères avec tous les produits qui sont... estampillé pour Pessah. Faire bien attention, en tout cas, quand on achète un produit, même dans une épicerie cachère, quand même vérifier que le produit est bien estampillé cachère de Pessah. Il y a des fois des erreurs. Il y a des fois, on a commandé cachère de Pessah, et puis en fin de compte, ce qui est arrivé, ce n'était pas cachère de Pessah. Ou bien l'épicier, peut-être qu'il a oublié de sortir un produit qui était de l'année. Ou il peut y avoir...
Oui, il faut vérifier.
Et donc, quand on achète, le consommateur, il doit faire attention de vérifier que le tampon, c'est bien un tampon cachère de Pessah. En général, c'est marqué en hébreu, mais souvent, c'est marqué aussi en français.
Il y a une question de Hashgacha, c'est-à-dire on fait attention au Beddin qui délivre la cachérisation ou globalement, on peut suivre...
En général, il y a lieu des fois de faire attention. Il peut arriver parfois... il est arrivé qu'il y a eu des fraudes et qu'il y a eu des produits... qui était frauduleux, et c'est pourquoi il faut faire attention. En tous les cas, faire très attention que ce soit bien écrit cachère de Pessah. Cachère de Pessah.
Alors, j'ai eu donc différents rabbanim qui sont venus à votre place pour nous répondre à nos questions, et il y a une règle générale, en tout cas, il y a une phrase qui revient souvent, Strasbourg est une bonne communauté, on y vit bien. Vous êtes de cet avis?
Ah, bien sûr, moi, du qui habite à Strasbourg ici depuis plus que 30 ans, il y a vraiment à Strasbourg tout ce qu'on a besoin, en tout cas en tant que vie juive. Il y a une vie juive très développée et grâce à Dieu, Strasbourg se développe, continue à se développer au niveau du judaïsme, même au niveau démographique. Mm-hmm. Beaucoup de gens qui viennent ici à Strasbourg, il y a beaucoup de choses qui attirent ici à Strasbourg. Il y a une grande diversité. On peut trouver ce qu'on a besoin. Puis C'est un peu une ville provinciale, donc plus calme que d'autres très grandes villes. Il y a beaucoup de choses qui attirent les. Il y a beaucoup de gens qui sont très attirés ici par Strasbourg, et on espère que ça continue.
Alors, on est dans une période un peu spéciale cette année, puisque on le sait, il y a effectivement un conflit au Proche-Orient et en Israël. Je dois d'abord avoir votre avis sur ce qui se passe, et je voudrais que vous me disiez si, à votre avis, il y a une relation entre Pessah et cette guerre. On rappelle que le jour où la guerre a commencé, c'était en plein Shabbat d'Achor, comme quoi des fois le calendrier fait bien les choses. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur ce qui se passe et nous dire si vous pensez, comme certains, que il n'y a aucune coïncidence, il n'y a aucun hasard, et que ce qui se passe en ce moment, il y a une relation, en tout cas, il y a une cause à effet.
C'est vrai que le fait que ça a commencé Shabbat Zahor, où on parle de l'éradication de nos ennemis, d'Amalek et de nos ennemis, c'est jamais une coïncidence. Il n'y a rien qui est une coïncidence. Toute chose qui arrive a sa raison, fait partie d'un plan divin. Tout fait partie d'un plan divin. Nous, on ne connaît pas forcément le plan divin. On n'est pas. Voilà, il n'y en a pas des.
Ça
Prophète,
fait des
pour
signes quand même.
savoir, mais on voit des signes, bien sûr. Hein, Nissan, c'est le mois de la délivrance. On espère beaucoup que on va arriver à cette délivrance-là et que le peuple d'Israël, qui réside en Eretz Israël, en terre d'Israël, sera enfin délivré d'un de ses plus grands ennemis et de tout ce qui a été fait à son encontre. Tout ce que nos ennemis ont voulu faire pour essayer de nous détruire. Et on le dit chaque année, chez Bchol Dor Vador, Omdim Aleinu Lechalotenu, on le dit dans la Haggadah, que dans chaque génération, il y a des ennemis qui cherchent à nous détruire. Et à chaque fois, HaKadosh Baruch Hu nous sauve. Et le peuple d'Israël, il est là depuis des milliers et des milliers d'années. Malgré tout cela, malgré tout ce qu'on a cherché à nous détruire, eh bien, on a survécu, on survit, on est encore plus fort que jamais et on est certain que HaKadosh Baruch Hu nous délivrera nous aussi et nous sauvera de tous nos ennemis.
Allez, il nous reste quelques minutes. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous voulez passer comme message à nos auditeurs, pas seulement, mais à la communauté entière, pour ces fêtes de Pessah.
L'importance de Pessah, c'est évidemment de la passer avec sa famille. C'est l'éducation, d'enseigner la Yetzé Mitzrayim, la sortie d'Égypte et toutes ces lois à nos enfants, pour que nos enfants, par la suite, puissent continuer cette chaîne. En fin de compte, nous, on est un maillon d'une chaîne qui a commencé il y a plus de 3000 années quand on a reçu la Torah. Et chaque génération a transmis à l'autre. Ça fait partie de la transmission. Le Pessah, l'essence du Pessah, c'est l'éducation des enfants. Veigata levinra, tu raconteras à ton fils ce que toi tu as appris, ton fils, à ta fille, à tes enfants. On laisse les enfants poser les questions, le plus de questions possible, avec la Manishtana et toutes les questions qu'ils veulent poser. Il faut laisser aux enfants la possibilité de poser le plus de questions possible, essayer de leur apprendre tout ce que nous-mêmes nous avons reçu pour que la chaîne puisse continuer à perdurer pour la génération prochaine. C'est ça le sens, le premier sens du Pessah. Et c'est une fête extraordinaire. Nous espérons que pour toute la communauté, ce sera une fête qu'on fêtera dans la joie, dans le bonheur. Pour chacun, il faut penser aux gens qui sont malades. Ils ne peuvent pas toujours faire le Pessah comme ils auraient aimé le faire. Des gens qui sont isolés, qui n'ont pas toujours une famille, il faut penser à eux, il faut penser à tout cela. Et d'ailleurs, il y a une obligation à Pessah particulièrement de penser aux gens qui sont pauvres et de leur donner de quoi acheter du vin, de quoi acheter de la matzah. C'est une prescription spécifique pour Pessah qu'on trouve pour aucune autre fête, ce qui montre bien l'essence de cette fête qui est de penser à l'autre. Nous espérons que nous tous et toute la communauté, eh bien, nous passons vraiment un Pessah dans la joie et dans la délivrance.
Merci beaucoup, Kasher Pessah Vesameach.
Kasher
Vesameach. Et merci à vous, à très bientôt, merci.
Kasher Pessah.